10 000 militaires, un porte-avions, des navires de guerre, la démonstration de force de l'OTAN en mer du Nord. Bonsoir et bienvenue dans BFM Grand Soir. On vous dévoile ce soir des images spectaculaires du tout dernier exercice de l'OTAN. Pour décrypter ça, on est avec Marion Bûcher. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne pilote de Mirage 2000. On est aussi avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir, général.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié de l'OTAN. Ça va être très précieux aussi d'avoir votre avis sur ces exercices XXL. Et puis Thierry Arnaud est également avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Émilie.
Éditorialiste politique international BFM TV. Nous partons donc en mer pour cet exercice XXL qui s'appelle Neptune Strike, dans la mer du Nord, en Méditerranée, en mer Baltique. On a le plus grand porte-avions du monde, des avions de chasse F-18, des F-35, 20 navires, 13 nations différentes, 10 000 militaires. Oui, ça donne le tournis de parler de tout ça. Alors, j'imagine, vous, général Paloméros, que ça ne vous impressionne pas, mais pour le commun des mortels, c'est extrêmement spectaculaire d'entendre tous ces chiffres.
Ça ne m'impressionne pas. Il se trouve que quand j'étais commandeur de l'OTAN pour la transformation, responsable de ces grands exercices. Non, ça me rassure quelque part, puisque les exercices, finalement, c'est le moyen pour l'OTAN non seulement de s'entraîner, mais de montrer sa détermination, sa crédibilité militaire. Nous, on n'est pas. Enfin, l'OTAN n'est pas agressif. Simplement, elle montre ses muscles pour ne pas avoir à s'en servir. C'est possible.
Vous dites que vous étiez responsable de ces grands exercices, général. Oui. Est-ce que vous adaptiez ces exercices à l'adversaire ?
Bien entendu, bien entendu. Vous savez, l'OTAN est défensive. Elle n'a pas, évidemment, elle est prête à toute éventualité face à toute menace. Mais la menace principale, et en particulier depuis 2014, on sait où elle se trouve. Elle se trouve en Russie. Donc, il y a un vaste. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut que ces exercices soient réalistes et il y a un vaste espace à couvrir parce que l'OTAN, c'est grand maintenant, avec 32 pays, un ciel. Vous parliez de la bataille de l'espace, de l'air, vous avez raison. Il faut arriver à gagner cette bataille aérienne, mais aujourd'hui, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée parce que c'est la masse, c'est la saturation. Et ça, on sait pas faire. Et personne ne sait faire aujourd'hui. Même les Israéliens ne sauraient pas faire contre 600 drones. Aujourd'hui, on n'a pas la parole. Donc, il faut qu'on s'entraîne pour pouvoir dissuader, pour pouvoir les frapper aussi dans la profondeur, parce que c'est ça, souvent, la réponse. Et je crois que c'est une très belle démonstration de force. Et puis, il faut que les forces de l'OTAN s'entraînent ensemble pour être interopérables, pour pouvoir, au jour J, à l'heure H, être prêtes sans problème particulier. Parce qu'on s'est entraîné, parce que l'entraînement est difficile, l'action est facilitée.
Marion Bûcher, vous êtes ancienne pilote de chasse. Ces exercices, vous les connaissez par cœur. Qu'est-ce qui est important dans ces exercices ?
C'est vraiment d'apprendre à travailler ensemble. Le dernier point que développait le général. Des exercices, on en faisait régulièrement, quasiment un tous les ans par pilote. Mais actuellement, on voit que leur nombre se multiplie. Vous avez parlé de l'exercice aéro-maritime, mais vous avez en même temps l'exercice Pikney en Estonie avec 3000 militaires. On voit depuis le début de l'engagement russe en Ukraine que le nombre d'exercices de l'OTAN a vraiment augmenté. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à travailler ensemble, de parler le même langage, d'avoir des procédures qui peuvent s'enchaîner ensemble, de pouvoir traiter des objectifs avec des avions de différentes nations. C'est ce qu'on apprend dans ces exercices.
Qu'est-ce que vous appreniez précisément, vous, en tant qu'ancienne pilote de chasse ?
On apprenait à préparer ensemble, déjà, puisqu'on a des systèmes qui sont différents. Alors, l'OTAN définit des standards. Et d'ailleurs, le rôle de SACTI, donc, qui est le commandement pour la transformation que dirigeait le général Paloméros, c'est d'anticiper un peu tout ça. Quels vont être les combats du futur? Et du coup, quelles vont être les procédures, la doctrine et les procédures qu'on va utiliser? Donc déjà, c'est d'avoir des procédures en amont qui sont intégrées dans les matériels. On a des matériels qui sont capables de dialoguer entre eux. Ensuite, ça va être de préparer ensemble. C'est-à-dire que on doit connaître à peu près les capacités des différents avions. On a un mission commander, donc quelqu'un qui commande la mission, qui doit être capable de préparer une mission qui va intégrer au mieux les capacités de tout le monde. Et ensuite, ça va être de briefer ensemble, donc de se comprendre parce qu'on va se partager le ciel. Et donc, il faut pas qu'on soit dangereux les uns avec les autres, et aussi qu'on se partage la façon dont on va traiter les objectifs.
C'était un challenge à chaque année, à chaque fois que vous faisiez cet exercice, vous remettiez, alors pas tout à plat évidemment, mais vous appreniez des choses à chaque exercice.
En fait, on est censé connaître la façon d'employer les moyens, oui. Donc ça, on s'entraîne tous les jours pour ça. Mais c'est vrai que ces exercices, le fait de le faire dans une coalition, dans un environnement avec des alliés qui ne parlent pas notre langue, ça rajoute un challenge supplémentaire et c'est extrêmement important de le faire régulièrement. Parce que même si on n'apprend pas quelque chose de nouveau, en tout cas, on maintient ses compétences et ça, c'est déjà beaucoup.
Thierry Arnaud, c'est vrai que c'est assez frappant. Marion Buchet nous le disait, elle faisait des exercices chaque année. Mmh. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces exercices se sont multipliés parce qu'il y a une menace grandissante.
Parce qu'il y a une menace grandissante et que l'OTAN a donc choisi de montrer ses muscles. Vous connaissez la formule, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et fondamentalement, c'est ça le rôle, la raison d'être de l'OTAN. Mmh. Vous vous souvenez qu'il y a une dizaine de jours, on évoquait les importants exercices réalisés par la Russie en compagnie de la Biélorussie, les exercices Zapad de très grande ampleur. Il y a eu quelques mois plus tôt des exercices navals de grande intensité également menés par la Russie. Donc il faut montrer que l'OTAN est présente, que l'OTAN est capable. Et d'ailleurs, dans la plupart des exercices, vous me le confirmerez peut-être, mais il y a des observateurs. Lorsque les Russes, par exemple, il y a quelques semaines, faisaient ces grands exercices avec la Biélorussie, il y avait des observateurs américains. Donc chacun va un petit peu jauger la capacité de l'autre à dissuader un éventuel conflit.
Vous confirmez pour les observateurs, Marion Buchet ?
Vous vouliez dire des observateurs qui regardent de loin ?
Oui,
qui
oui.
Sont, oui. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est une façon d'essayer de mesurer les capacités de l'adversaire, de savoir sur quoi il s'entraîne, sur quoi peut-être il ne s'entraîne pas. Et ça, c'est important pour essayer d'avoir un avis sur du renseignement un peu étayé.
Mais ces exercices, pour éclaircir le point des conservateurs, ces exercices, ils sont faits pour être vus dans une certaine mesure. Il y a aussi un effet
dissuasif.
C'est d'ailleurs
pour ça qu'on a des images et qu'on
Exactement.
Est en mesure de les diffuser. Général Palomeros, on sait que la France a participé à cet exercice en déployant sa frégate Bretagne. On dit qu'elle est capable d'assurer des missions de lutte anti-sous-marine et anti-aérienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quoi ça consiste exactement ?
Qui est mise à la disposition du chef d'état-major des armées. Il y a effectivement, chaque armée apporte ses compétences et ses capacités. Et là, on a une magnifique outil. Hein. Ces frégates sont très modernes. Elles peuvent effectivement faire à la fois de la lutte en sous-marine et de la défense aérienne. Elles sont très précieuses pour la défense côtière. Vous savez, la défense du ciel, la maîtrise du ciel, comme je le disais tout à l'heure, c'est jamais acquis. Hein. On ne peut pas considérer qu'on est acquis parce que la menace évolue et on l'a vu d'une manière sidérante avec l'apparition de ces essaims de drones que l'on craignait mais qu'on n'avait jamais vus. Voyons, il faut être toujours prêt à cette surprise qui là est quasiment une surprise stratégique. Ça change la donne. On ne sait pas comment les Ukrainiens vont pouvoir faire face à ça. On ne sait pas comment on peut les aider. Il faut aller vite, il faut être inventif. Et là aussi, le travail des pays de l'OTAN avec ce commandement, comme vous le rappeliez, de la transformation, c'est d'essayer d'imaginer le futur et de regarder comment on va pouvoir lutter à armes égales par rapport à ce que font nos adversaires, et en l'occurrence la Russie. Sur les observateurs, simplement, il faut savoir qu'avant 2014, il y avait vraiment des observateurs. Il y avait des Russes qui venaient observer in situ. Ça faisait partie des bons procédés, si je puis dire, des bonnes manières. Comme ça, on savait ce que faisaient les autres et réciproquement. On en a reçu en France régulièrement. Mais évidemment, après 2014, ça a été terminé.
Marion Buchet, vous confirmez les propos du général. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, cette bataille aérienne, elle est de plus en plus compliquée.
Oui, et puis pour rebondir sur la question que vous lui posiez sur les frégates, la frégate Bretagne, moi j'ai eu l'opportunité de visiter l'Auvergne cette année, les frégates multimissions. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez une énorme puissance de feu qui est concentrée sur un bateau en fait. Et ça donne des capacités assez impressionnantes à ces bâtiments-là, et c'est pour ça qu'on en a notamment engagé une sur l'exercice.
Et là aussi, disons que quand la France participe à cet exercice, c'est aussi pour se coordonner avec les autres nations. On le rappelle, il y en a 13 en tout.
Oui, tout à fait. Donc, chacun va avoir son rôle dans le dispositif et va devoir s'appliquer à effectuer sa mission de manière à ne pas gêner les autres et à pouvoir dire si oui ou non il a pu effectuer sa mission correctement. S'il ne peut pas, on va prévoir des plans de remplacement pour que un autre actif du dispositif puisse éventuellement réaliser la mission à sa place. Donc, c'est tout ça qu'il est important d'apprendre à coordonner.
On a aussi reçu des images d'avions F-35 et F-18 en formation diamant, donc c'est en forme de losange, si on doit être un petit vulgarisé en tout cas cette formation. Vous me dites, hein, Marion Buchet.
Oui, alors ça, c'est...
on les voit justement. Moi, j'en ai déduit que c'était des losanges.
Bon, ça,
la formation diamant.
Tout à fait. Bon, ça, c'est pas très très opérationnel. Hein. C'est plus.
Ils sont juste de passage, mais en tout cas, voilà. Ils expliquaient qu'ils étaient régulièrement en formation diamant dans ce type d'exercice, devancés par un avion de surveillance. Cette formation, elle survole le dispositif qui est en mer. C'est bien ça?
Oui. Alors ça, comme je vous le disais, c'est plus du défilé. Enfin, c'est plus de on va dire de la coutume militaire quand on a des avions, oui. De faire des défilés pour.
Mais dans le cadre de l'exercice, comment est-ce que tout ça se coordonne?
Il y a pas vraiment d'intérêt opérationnel. Alors le seul intérêt opérationnel qui a à voler près, c'est pour les uns des autres, c'est pour limiter le nombre de mouvements dans l'espace aérien et pour les contrôleurs. Mais à cette distance-là, c'est vraiment purement de l'esthétique. Les formations serrées peuvent être utilisées pour après. Traverser des nuages ou après un petit peu plus de manière un petit peu plus lâche pour coordonner une patrouille pour traiter un objectif, mais pas de cette manière-là. Oui. Là, c'est vraiment.
Général Paloméros, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'exercices pour que ça devienne un petit peu concret? Est-ce qu'on va simuler des attaques aériennes? Est-ce qu'on va arraisonner un navire, faire des débarquements? Expliquez-nous.
Non, ce qui est important dans les exercices, et ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est la clé, c'est la mise au point de scénario. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Quel est le but final recherché, en quelque sorte? Dans quel cadre se situe-t-on? D'abord, il y a le cadre géographique, on le voit, il est spécifique, il faut l'appréhender, parce qu'on n'a pas forcément, par exemple, pour les aviateurs, l'habitude de voler sous ces latitudes, etc. Il faut apprendre, et c'est particulièrement vrai, évidemment, pour l'armée de terre. Et puis, donc, il y a ce scénario. Et il y a en face une sorte d'opposition virtuelle pour que cet exercice soit réaliste. Parce que, évidemment, c'est facile de travailler tout seul et d'être totalement libre de ses mouvements, alors que la guerre, ce n'est pas ça, évidemment. Donc, il y a une simulation qui est faite de l'adversité de manière à vraiment poser le défi à la coalition de trouver les modes d'action. C'est pas pré-plané. C'est pas pré-planifié, les modes d'action. C'est au cours de l'exercice que les commandeurs à différents niveaux développent leur plan pour utiliser au mieux les moyens qui leur sont accordés en but, avec le but final recherché. Le but final recherché de l'OTAN, c'est d'assurer avant tout la paix. Maintenant, il faut être prêt à prendre ses muscles, on l'a déjà dit, et il faut être prêt à intervenir de manière très offensive si c'est nécessaire.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, Général, que les militaires ne connaissent absolument pas le scénario qui se joue au moment où ils démarrent l'exercice?
Au moment où ils démarrent l'exercice, ce qu'ils savent, c'est un peu comme un jeu d'échecs, où sont les pièces sur l'échiquier, mais ils ne savent pas comment elles vont évoluer. Et elles vont évoluer en fonction de la stratégie, voire de la tactique des commandeurs bleus, c'est-à-dire de l'OTAN, et aussi de l'évolution des forces rouges, qui représentent évidemment, en l'occurrence, la Russie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si tout était... Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas un seul plan qui résiste à la première cartouche, en quelque sorte, au premier combat. Et oui, le plan, ce n'est jamais qu'une vision à un moment donné, mais il doit ensuite s'adapter à la réalité de ce qu'on voit en face de nous. Si on a planifié de défendre l'OTAN par rapport à un certain nombre de menaces, maintenant, il faut y ajouter les essaims de drones. Et ça, je peux vous dire qu'on ne l'avait pas planifié, même si on sentait que ça allait venir. Et quand on planifie ça, le but des exercices, c'est de tirer un retour d'expérience pour orienter les capacités futures ou même à court terme en disant « là, on a un vrai problème ». Eh bien, il faut bosser tous ensemble. C'est bien d'être à 32 pays parce que on est plus fort et ça va plus vite. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions, des parades. On ne peut pas rester comme ça.
Vous vouliez ajouter des détails, Marion Buchet ?
Par exemple, si on prend l'exercice Pikné qui se déroule en Estonie, l'objectif, c'est de travailler la reprise de territoire en environnement contesté. Bon, ben, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on comprend à quoi on s'entraîne là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à éventuellement avoir une agression d'un autre pays qui prenne des territoires et qu'on va aller récupérer.
Et Thierry Arnaud, alors c'est vrai qu'on le disait, il s'agit aussi de... Au-delà de se coordonner et de répéter les exercices, il s'agit aussi de dissuader un adversaire.
Oui, bien sûr, parce qu'on a vu et on les a abondamment commentés sur ce même plateau, les manœuvres hostiles, qu'il s'agisse de manœuvres aériennes au large des côtes de l'Estonie il y a quelques jours, qu'il s'agisse de ces essaims de drones, donc de multiples provocations. Donc il faut montrer que l'OTAN n'est pas inerte et sans réagir, même si, encore une fois, ces exercices-là, ils sont évidemment classiques, habituels, réguliers, mais là, ils prennent dans ce contexte, évidemment, une importance et un sens particulier. Et encore une fois, comme on le disait, ils sont faits pour être vus et ils sont faits pour dissuader, ils sont faits pour montrer que l'OTAN est prête, qu'elle est organisée, qu'elle a les moyens de se défendre si on l'agresse et de le faire de manière très efficace.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour en parler. Merci Général Paloméros, c'était passionnant de vous entendre également.